VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Raïssa Girondin avec vous en direct de Washington pour cette édition de 18h30 en temps universel, mais également à Dakar, Conakry, Abidjan. Bonsoir, voici les titres. Cet officiel, George Weah, ex-vedette du football, est investi président du Liberia.
La communion, la passion, l'émotion, l'énergie, cette espèce de magie démocratique, cette espèce de symbiose qu'il y avait entre le président Weah et ce stade qui était plein à craquer, c'était extraordinaire.
On retrouvera l'ancien ministre congolais Alain Kwala qui a assisté à la cérémonie à Monrovia en République centrafricaine. Travaux forcés à perpétuité pour Rodrigue Naibona, dit Angelo, un chef des anti-Balaka. N'Djamena a été paralysé par une grève des transporteurs et des élèves avec de nombreuses arrestations. Et ici aux États-Unis, réouverture du gouvernement américain. Les sénateurs démocrates ont accepté un compromis budgétaire dans l'actualité économique aussi au Mali. Bientôt du jus de gingembre en bouteille. Et bien sûr, ne ratez pas les sports avec les derniers résultats du CHAN. Mais tout d'abord, le journal. Enfant des bidonvilles de Monrovia, devenu star planétaire du foot dans les années 1990, George Weah a réalisé le rêve de sa seconde vie en prêtant serment aujourd'hui comme président du Liberia, 15 ans après la fin de sa carrière et de la guerre civile. Salwa Jafari.
C'est une seconde vie qui commence pour l'ancien footballeur et un grand jour à Monrovia. Les Libériens se sont rassemblés par milliers pour assister à la cérémonie de prestation de serment.
Je suis ici pour George Weah, je l'aime tellement. Je sais qu'il s'occupe de nous les pauvres, c'est pourquoi je suis ici. Je suis ici à cause de mon pays. Je sais qu'il fera plus pour nous. C'est pour cela que je suis là, je suis tellement heureuse.
Heureux, très ému, Weah l'était aussi. J'ai passé beaucoup d'années de ma vie dans des stades, mais le sentiment que j'éprouve aujourd'hui est incomparable, a-t-il déclaré. Unis, nous sommes certains de réussir en tant que nation divisée. Nous sommes certains d'échouer, ajoute-t-il en référence notamment à la guerre civile qui a fait quelques 250 000 morts entre 1989 et 2003. Weah succède à Ellen Johnson Sirleaf, 79 ans, première femme élue chef d'État en Afrique. Au lendemain de sa large victoire, le 26 décembre, avec 61,5% des voix face au vice-président sortant, Joseph Boakai, George Weah, issu de l'ethnie Krou, une des principales du pays, élevé par sa grand-mère à Gibraltar, un bidonville de Monrovia, avait promis une gouvernance publique en faveur des plus pauvres.
Et on reviendra sur son investiture dans la partie magazine. En République démocratique du Congo, l'heure est au bilan après les nouvelles manifestations hier à l'appel d'un collectif catholique contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. 6 personnes ont été tuées dans la capitale Kinshasa selon la mission de l'ONU, 2 selon la police congolaise. La secrétaire générale de la francophonie a fermement condamné l'usage disproportionné et abusif de la force et demandé que ces violences ne restent pas impunies. Nous y reviendrons également dans la partie magazine. En République centrafricaine, le général Angelo condamné aux travaux forcés à perpétuité. Le verdict de la cour criminelle est tombé cet après-midi à Bangui. Le redoutable chef anti-Balaka est reconnu coupable d'assassinat, d'association de malfaiteurs, de détention illégale d'armes et de munitions. Le point avec notre correspondant Freeman Sipila.
En plus des travaux forcés à perpétuité, Rogling Gaibuna, dit général Ondilo, devra aussi verser des dommages et intérêts de plus de 130 millions de francs CFA. Le délibéré du procès s'est déroulé à huis clos à la cour d'appel de Bangui. Avant le verdict, le président de la cour a donné la parole à l'accusé pour son dernier mot. Le chef anti-Balaka, âgé aujourd'hui de 25 ans, a dans une adresse d'une dizaine de minutes fait savoir qu'il avait pris les armes pour sauver son pays, la République centrafricaine, envahie par des mercenaires étrangers en 2013. 2016. Avant de remettre son sort entre les mains de Dieu et de la justice, le général Ondilo a remercié tous ses compagnons de lutte pour leur courage. Ce verdict, une vraie satisfaction pour les avocats de la partie civile et pour le parquet général qui a requis une peine de travaux forcés à perpétuité. Ces avocats, bien que déçus, ont 3 jours à compter d'aujourd'hui pour interjeter appel. À Bangui, les avis divergent sur cette décision de la justice. Rodrigue Ngaïbona, dénommé général Ondilo, avait été arrêté mi-janvier 2015 par la MINUSCA à Bouka, dans le Nord. Il était à la tête d'une puissante faction anti-Balaka de plus de 3000 hommes qui ont marché sur Bangui le 5 décembre 2013. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Au Cameroun, l'ex-secrétaire général à la présidence Marafa Amidou Yaya, écroué depuis 2012 pour détournement de fonds publics, a critiqué l'immobilisme de l'exécutif dans une lettre et une vidéo enregistrée depuis sa prison, largement relayée sur les réseaux sociaux. Il est écroué depuis 2012 pour détournement de fonds publics, des faits qu'il a toujours niés, estimant être détenu pour des motifs exclusivement politique. Plusieurs organisations des droits de l'homme ainsi que le département d'État américain le considèrent comme un prisonnier politique. Au Tchad, une manifestation inattendue ce matin dans les rues de N'Djamena. Les élèves des deux lycées de la capitale sont descendus dans la rue pour soutenir leurs enseignants en grève depuis 3 jours. Ces élèves sont rejoints par les usagers qui répondent à la journée sans engin déclarée par une organisation pour la défense des droits des consommateurs et pour soutenir les transporteurs en grève. Notre correspondant André Komadinga nous fait le point de N'Djamena.
Surpris par cette manifestation inopinée, les autorités en charge de la sécurité publique ont mobilisé tout le service de sécurité, y compris les éléments de la DGSE garde prétorienne, pour disperser ces manifestants à coups de gaz lacrymogène et de tirs de sommation à balles réelles. Selon des sources hospitalières, une quarantaine de cas de traumatisme dus à l'aspiration de gaz lacrymogène, 3 cas d'accident de la voie publique et 1 policier blessé à coups de cailloux sont enregistrés. La police, elle, signale quelques arrestations de délinquants qui profitent de cette situation pour troubler l'ordre public. Tous ces remous sociaux visent donc à soutenir la grève des transporteurs et la journée sans engin déclarée par la dynamique citoyenne pour la protection des droits du consommateur pour protester contre la hausse du prix du carburant à la pompe. Une grève qui coïncide avec celle des enseignants de 2 grands lycées pour dénoncer la violation de leurs locaux par la police nationale lors de la manifestation des étudiants le 17 janvier dernier. Aucun taxi et bus de transport en commun ne circule dans la ville. Même les agences de voyage à l'intérieur du pays ont tous parqué leur bus. Les agents de l'État, les élèves et les petits gagne-pains des quartiers périphériques ont du mal à se déplacer vers le centre-ville ce lundi. André Kodimadingar N'Djamena, VOA Afrique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et ici même aux États-Unis, les chefs de file démocrates et républicains au Sénat sont parvenus à un accord aujourd'hui pour faire adopter une loi de finances temporaire et mettre ainsi fin au shutdown de l'administration fédérale américaine. Pour les derniers développements, Jacques Aristide nous rejoint en studio.
Oui, Raissa, les procédures en vue du nouveau vote du Sénat sur cette prolongation réduite des financements fédéraux jusqu'au 8 février ont débuté et le gouvernement va rouvrir ses portes dans les prochaines heures. D'après le chef de file des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, ce compromis doit maintenant être validé par la Chambre des représentants, puis paraffé par le président Donald Trump pour entrer en vigueur. Le président Trump qui va prendre la parole dans quelques minutes. Les démocrates avaient refusé jusqu'à présent de voter cette rallonge temporaire sans solide garantie sur le sort de centaines de milliers de clandestins arrivés jeunes aux États-Unis. Les Dreamers, comme on les appelle, avant tout accord.
Mais qu'attendent maintenant les démocrates à l'issue de ces intenses tractations?
Eh bien, Raissa, après l'accord avec le chef de file de la majorité républicaine, Mitch McConnell, Chuck Schumer s'est dit confiant dans le fait qu'une loi protégeant les Dreamers pourrait être votée d'ici quelques semaines et obtiendrait les 60 voix nécessaires au Sénat. Sauf improbable contretemps, le premier shutdown de l'ère Donald Trump aura donc duré 3 jours. Le dernier qui remonte à 2013, et j'étais là évidemment, sous l'administration du président démocrate Barack Obama, avait duré 16 jours, Raissa.
Merci beaucoup, Jacques. Pour le journal, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique, qu'on en parle dans la Minute Éco, qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
Au Mali, une entreprise locale, Zaba, veut mettre en bouteille le fruit du baobab et de gingembre. La boisson est baptisée Prince. Le ministre du Développement industriel Mohamed Ali Ag Ibrahim a indiqué que ce projet va créer de l'emploi et de la richesse en produisant ce que les Maliens consomment localement. La Côte d'Ivoire a obtenu un financement de plus de 60 millions de dollars pour améliorer la nutrition, le développement cognitif et la scolarité des enfants vulnérables. D'après la Banque mondiale, la malnutrition chronique a des effets délétères sur la croissance des enfants et à terme, une productivité plus faible à l'âge adulte. Cette situation coûte à l'économie ivoirienne près de 970 millions de dollars par an. Le Cameroun et le Congo ont réceptionné provisoirement un poste de contrôle unique frontalier. La communauté économique des États de l'Afrique centrale estime que ce poste permettra à faciliter les échanges commerciaux entre les deux États et renforcer le processus d'intégration régionale en Afrique centrale. La construction a coûté plus de 4 milliards de francs CFA.
Et c'est l'heure de notre page sport avec Nicolas Pineau. Bonsoir.
Bonsoir Aïssa, bonsoir à tous.
Bien sûr, le CHAN 2018, les derniers matchs du groupe B ce lundi.
Et oui, le coup d'envoi à 19h temps universel à Casablanca de la finale du groupe B entre les deux équipes déjà qualifiées, Namibie et Zambie. À Marrakech, les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent l'Ouganda dans la même situation. Un match sans enjeu, si ce n'est retrouver l'honneur pour la Côte d'Ivoire. Les explications d'Amin Birouk pour VOA Afrique sur place.
C'est avec l'intention de quitter le CHAN, la tête haute, que la Côte d'Ivoire affronte ce lundi à Marrakech l'Ouganda. Débarqué au Maroc avec l'ambition de corroborer la troisième place obtenue 2 ans plus tôt, les hommes d'Ibrahima Camara ne se sont pas montrés à la hauteur des espoirs placés en eux. Décevant devant la Namibie et battu dans les derniers instants du match, totalement dominé jeudi par la Zambie, il ne leur reste que l'obstacle ougandais pour laver leur image. En face, les Cranes ont certes perdu leurs 2 rencontres, mais ont tout de même séduit par leur envie de proposer du jeu et d'aller de l'avant. Ils devront faire preuve de plus d'efficacité dans le secteur offensif s'il désire enfin prendre les 3 points de la victoire. Depuis Casablanca au Maroc, Amin Birouk pour VO Afrique.
Alors hier, le Maroc accrochait devant son public.
Oui, au stade Mohamed V, les Lions de l'Atlas ont fait match nul 0-0 dans un match sans enjeu face au Soudan, également qualifié pour les quarts de finale. On va écouter la réaction de Jamal Selami, l'entraîneur des Marocains.
On a garanti notre qualification pendant les 2 premiers matchs. Pour le 3e match, pour nous, c'était une occasion pour faire jouer les autres joueurs. Parce que c'est très important qu'ils soient compétitifs. Et surtout, lorsque tu joues un match officiel comme celui-là contre une équipe qui est bien organisée, c'est très important. Ça veut dire que pour nous, c'est très important qu'on ait fait jouer les joueurs remplaçants. Il y a certains qui ont été à la hauteur. Il y a d'autres qui leur manquent certaines choses. Mais l'objectif pour nous aujourd'hui, c'était d'abord rester à Casa, ne pas avoir de carton, ne pas avoir de blessé et faire tourner l'équipe.
Jamal Selami, le sélectionneur du Maroc. À Marrakech, dans un match également sans enjeu entre 2 équipes éliminées, la Guinée sauve l'honneur et l'emporte 1-0 face à la Mauritanie. C'est Sankon qui marque l'unique but du match à la 15e minute pour le Séli national de Guinée. On avait ce matin entendu Ibrahima Sori Touré, la satisfaction de l'entraîneur adjoint des Guinéens. En revanche, soupe à la grimace pour Corentin Martins, le sélectionneur de la Mauritanie. 3 défaites en 3 matchs, on l'écoute.
Mis à part le match contre le Maroc où j'ai trouvé qu'on avait été un peu timoré, où on n'avait pas osé ou réussi en tout cas à jouer de l'avant comme on aurait souhaité, j'ai pas grand chose à reprocher à mes joueurs sur ce qu'on avait demandé, sur ce qu'on voulait faire, c'est aller de l'avant, trouver du jeu sur les côtés, des dédoublements, des centres et puis des occasions. On a ce soir, on s'est créé encore beaucoup d'occasions. On concrétise pas parce que c'est un manque de lucidité à un moment donné, un manque de spontanéité. Par contre, on a fait ce qu'on voulait, c'est-à-dire aller de l'avant, créer du jeu. Et ça, c'est intéressant. Et je pense que les joueurs, il faut qu'ils continuent dans cette voie-là.
Corentin Martins, le sélectionneur de la Mauritanie.
Mais Nicolas Pineau, est-ce que vous pouvez revenir sur le match face au Congo?
Alors, on va parler évidemment du Congo, hein, qui est premier du groupe D, le Congo qui faisait face à l'Angola, au Cameroun et au Burkina Faso. Eh bien, le Congo qui s'est déjà qualifié en battant le Burkina Faso. Et surtout, c'est une grosse surprise à Aïssa, puisque les Camerounais ont été battus par les Angolais 1-0, à nouveau sur pénalty. Et donc, conséquence, les Lions indomptables du Cameroun qui rentrent à Yaoundé. Une élimination pour cette équipe entraînée par Rigobert Song.
On va finir avec la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Oui, les Lakers qui ont dominé les Knicks 127 à 107 hier, malgré une grosse performance de Kyrie Irving, 40 points. Boston, leader de la conférence Est, s'est incliné à domicile contre Orlando, la lanterne rouge. Enfin, Brooklyn qui bat Détroit 101 à 100.
Merci beaucoup Nicolas Pineau pour cette page sport.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez toujours Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, un comité laïque de coordination proche de l'Église a organisé des marches ce week-end contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila, qui ont fait au moins 6 morts d'après les Nations Unies. Pour un éclairage, Ekia Badou a joint à Kinshasa Thierry Kambundi, correspondant pour VOA Afrique.
Il y avait une présence remarquable des agents des forces de l'ordre. Alors, il se fait que certains ont pu marcher une certaine bande avant d'être dispersés par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène et des balles, soit des sommations, soit des balles réelles. Il y a eu de nombreux blessés à Saint-Joseph, à Matoré, par exemple, dans la commune de Kalamou. Il y a eu une dizaine de blessés. Il y a eu également des blessés, notamment un journaliste de Radio Kapi à Lemba, dans la paroisse Saint-Augustin. Il y en a eu comme ça, à la commune de Kitambo. Il y a eu mort d'homme également, une jeune fille de 16 ans. On a déploré également un cas de blessés au niveau de Saint-Augustin à Lemba. Mais pour la plupart des cas, il y a eu de nombreux blessés et des arrestations également.
Le gouvernement, par le biais d'un de ses porte-parole, a estimé que ces manifestations n'étaient pas utiles. Qu'est-ce que vous pensez de cela?
Le fait est que le gouvernement trouve inutile l'organisation d'une telle marche parce que, selon lui, l'accord est en train d'être appliqué. Il faut rappeler que les laïcs catholiques qui avaient appelé à l'organisation de la marche ne réclament pas seulement le départ du président Kabila ou l'annonce que le président Kabila ne se représentera pas. Il déclare l'application intégrale qui implique la décrispation politique, le retour des exilés politiques, la libération de certains prisonniers politiques, la réouverture de certains médias des opposants, la libération de l'espace de liberté, que toutes les parties aient la possibilité d'organiser des activités, des marches, etc. C'est cela qui s'inscrit, selon eux, dans le cadre de l'application intégrale de l'accord du 31 décembre 2010.
Le pape a demandé au gouvernement qu'il n'y ait plus de violence. Toutes les religions, quelque part, participent directement ou indirectement. Est-ce que c'est inédit pour vous? Est-ce que c'est quelque chose qui va aider au débat?
Les différentes parties, la société civile, tout le monde veut qu'on aille aux élections de manière apaisée. Pour le moment où il y a trop de tensions, les activités politiques, les marches sont réprimées, ces différents appels, et les musulmans, et les catholiques, et d'autres structures et de la communauté internationale également, devraient justement permettre aux uns et aux autres de mettre de l'ordre dans leurs mains, afin que tout ce chemin regarde vers les élections avec le même état d'esprit.
C'était Thierry Kambundi, correspondant pour VOA Afrique.
Bonjour, c'est Nathalie Barge. Juste un petit mot pour vous dire de ne pas manquer Le Monde au féminin ce mardi à 19h TU. Dans cette émission, Viviane Foura, entrepreneur sociale, partage son témoignage, celui d'une jeune fille ayant dû fuir son pays en guerre, se retrouver victime de violences sexuelles et porteuse du VIH-SIDA. Mère d'une petite fille de 5 ans, cette scientifique congolaise milite pour les droits des filles et des femmes au sein de divers organismes de prévention du SIDA et pour l'accès des femmes enceintes au traitement. Le Monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h, temps universel sur VOA Afrique.
Au Liberia, la légende du football, George Weah, est entré dans l'histoire devant une foule pleine d'espoir. Il a prêté serment comme président 15 ans après la fin de sa carrière et de la guerre civile. Dans cette ambiance électrique, Alain Akwala, ancien ministre congolais, à mon micro, à Monrovia.
Écoutez, je dois vous dire en toute humilité, je viens de vivre un événement historique qui va marquer, je crois, le début de ce siècle où l'Afrique qui cherche justement sa voie à la fois vers la démocratie et le développement, deux défis, je crois, nous pouvons relever au regard de ce que j'ai pu ressentir aujourd'hui au stade Samuel Do, la communion, la passion, l'émotion, l'énergie, cette espèce de magie démocratique, cette espèce de symbiose qu'il y avait entre le président Ouya et ce stade qui était plein à craquer, c'était extraordinaire.
On peut même entendre l'ambiance qui est encore derrière, mais c'est vraiment inédit, un ancien sportif du jamais vu en fait en Afrique.
Ben, je pense que c'est un itinéraire qui devrait réfléchir les acteurs de la vie politique africaine, les acteurs classiques. Parce que voyez-vous, en discutant avec un taximen que j'avais pris, il m'a dit, nous avons choisi Ouya parce que non seulement il a réussi à faire l'unité du Liberia, mais en même temps, c'est un monsieur qui est parti de rien, qui est parti du ghetto, qui par la force du poignet s'est élevé, a gagné son argent honnêtement et a prouvé qu'il était capable d'avoir le sens de la patrie par rapport à toutes les actions qu'il a menées lorsque le pays était en guerre et qu'il a permis à l'équipe du Liberia de participer à certaines compétitions. Et ce choix s'est fait parce que, d'après ce taximen, eh bien, les Libériens avaient toujours été divisés parce que, ayant fait le choix d'acteurs politiques, sortis des universités, bardés de diplômes, mais qui en réalité avaient déjà, du fait de leur statut, une espèce de complexe de supériorité et regarder le bas-peuple de haut, ce qui n'est pas le cas d'Ouya. Et donc je pense que c'est un cas d'école qui devrait nous permettre de réfléchir.
Selon vous, quels sont les défis qui attendent Georges Ouya aujourd'hui?
Les défis, il les a tous déclinés dans son discours. Et bien, non seulement qu'il faut maintenir la démocratisation donc du Liberia, mais surtout, mener une guerre qui ne sera plus la guerre fratricide, mais une guerre contre la pauvreté, une guerre contre la corruption, une guerre pour le développement.
Bon, la corruption, par exemple, c'est un grand domaine qui touche aussi énormément d'autres pays africains. Pensez-vous qu'il ira au bout de cette mission?
Bah écoutez, je pense qu'il n'y a pas de doute par rapport à sa volonté, mais il a lui-même dit aussi qu'il ne fera pas seul. Il faudra qu'il y ait justement le gouvernement et surtout le peuple libérien. Mais je crois que ce qui vient de naître ici, comme ils ont dit, c'est une espèce de new dawn, une nouvelle aube qui s'élève ici. Et je pense qu'à partir du Libéria, c'est toute l'Afrique.
Oui, Alain Kouala, ancien ministre congolais, joint un peu plus tôt à Monrovia.
Bonjour, c'est Nicolas Pinault. Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, rendez-vous en direct dans Sporama 19h, temps universel. Pour participer, c'est très simple, vous pouvez nous appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. À très vite, sur le terrain de VOA Afrique.
Au Congo, Brazzaville, les négociateurs de la paix dans le Pool ont appelé le gouvernement à lever les poursuites contre le pasteur Ntoumi, le chef de la rébellion ninja qui sévit dans cette région depuis avril 2016. Ces négociateurs ont par ailleurs demandé à Ntoumi de participer pleinement au retour de la paix dans cette région. Le point avec notre correspondant à Brazzaville, Nguela Ngoussou.
Cette première phase des négociations directes entre le gouvernement et les éléments du pasteur Ntoumi a consisté à baliser le chemin pour la mise en œuvre de l'accord de paix signé en décembre dernier. Mais déjà, les 34 négociateurs ont souligné la nécessité de lever les poursuites contre le pasteur Ntoumi. Un extrait du communiqué publié à l'issue de ses travaux.
Il a été également retenu que l'implication du révérend pasteur Ntoumi est essentielle à la réussite de cette opération. À cette fin, la commission a proposé qu'il recouvre sa liberté de mouvement.
Dans le camp du pasteur Ntoumi, on note une réelle satisfaction de ce premier point marqué. Jean-Gustave Ntondo, représentant personnel du pasteur Ntoumi, a ces discussions.
Nous sommes satisfaits de la confiance qui va régner entre les deux parties. Nous avons demandé que les droits, tous les droits et toute la liberté du révérend pasteur Ntoumi soient restitués, on va dire. Donc de ce point de vue-là, les choses sont claires.
L'Observatoire congolais des droits de l'homme attire l'attention de l'opinion nationale pour que les crimes commis pendant cette crise du Pool ne soient pas impunis. Trésor Nzila Kende est son directeur exécutif.
Où cet accord ne peut pas être durable s'il consacre l'impunité. Déjà, l'accord lui-même dans son contenu, il a un contenu très pauvre, un contenu qui ferme les yeux sur toutes les exactions qui sont commises dans le département du Poul. Il n'y a pas que nous qui sommes exprimés sur les violations des droits de l'homme dans le Poul. Vous vous souvenez qu'il y a un rapport conjoint entre les Nations Unies et le gouvernement qui pointe également des exactions dans le Poul.
Il faut des moyens financiers pour débuter la mise en œuvre de cet accord. Pour le colonel Pierre Mbongo, le chemin qui reste à parcourir est presque déjà connu.
Il reste maintenant à définir toutes les conditionnalités de sa mise en œuvre effective, notamment les conditions du ramassage des armes de guerre, du retour dans leur environnement familial de tous les ex-combattants qui étaient égarés ci et là. Naturellement, il s'agit aussi pour nous de redimensionner le dispositif sécuritaire dans le Poul.
Dans le Poul, on enregistre déjà la démobilisation de plusieurs ninjas actuellement cantonnés dans un centre de transit à Kinkala, Nguela Ngusu, Brazzaville, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le vice-président américain Mike Pence a annoncé l'ouverture avant fin 2019 de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Mike Pence s'est exprimé devant le Parlement israélien malgré la colère des Palestiniens et la réprobation internationale. Au même moment, le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas cherchait à Bruxelles à rallier le soutien européen. Pour analyse, Eric Manirakiza a joint à Paris le chercheur auprès de l'IRIS et l'auteur de Trump, La revanche de l'homme blanc, Marie-Cécile Naves.
Cette décision, elle est moins faite pour des raisons géopolitiques que pour des raisons de politique intérieure. C'est une décision qui obéit à une stratégie électorale de satisfaire les électeurs évangélistes qui ont voté pour lui à plus de 80% en novembre 2016, auquel Mike Pence appartient, puisqu'il est un chrétien évangéliste. Et ce sont des gens qui ont une vision très millénariste de la politique étrangère, qui s'appuie sur les mythes fondateurs des États-Unis, comme quoi les États-Unis sont la deuxième terre promise après Israël. Avec Pence comme avec Trump, dans le discours incantatoire, dans la surenchère verbale, qui n'engage à rien, mais qui remet en cause les équilibres régionaux et qui participe, je crois, d'une stratégie du chaos à l'international pour apparaître comme un pays combatif qui ne se laisse pas dominer par les réalités locales, mais qui impose sa manière de voir les choses, tout en n'ayant à long terme aucune stratégie géopolitique sur la résolution du conflit israélo-palestinien.
Mahmoud Abbas qui se retrouve au même moment à Bruxelles, quel est l'enjeu derrière ça?
Eh bien, Mahmoud Abbas cherche un autre médiateur, c'est-à-dire il a bien compris que c'était pas du côté des États-Unis qu'il fallait chercher un médiateur pour la paix. Ça c'est clair et net, donc il cherche un autre médiateur et comme l'Union européenne et en particulier la France, sans doute qu'il s'est dit que ça pouvait être le médiateur potentiel idéal.
Jusqu'où cette question peut antagoniser les deux alliés?
Eh bien, si l'Union européenne affirmait de manière officielle, c'est-à-dire par la voix de Juncker par exemple, ou par la voix de Merkel ou de Macron, qu'elle va jouer un rôle de médiateur au premier plan dans le conflit israélo-palestinien, ça serait vu sans doute par Donald Trump comme un affront. Et même si l'Union européenne a déjà dit par le passé qu'elle souhaitait la solution à deux États dans les frontières de 1967, avant la guerre des Six Jours.
Pourquoi il y a justement cette hésitation de ne pas reconnaître un État palestinien au niveau des Européens?
C'est paradoxal parce que d'un côté, l'Union européenne s'est déjà engagée sur le fait qu'il devait y avoir deux États. Et parallèlement, l'Union européenne, elle est incapable de parler d'une seule voix. C'est pas uniquement sur ce sujet-là. Parce que les 28 États membres ne sont pas tous d'accord. Certains pensent qu'elle a d'autres priorités pour l'instant, comme par exemple la question ukrainienne ou la lutte contre Daesh, et qu'on ne peut pas être sur tous les fronts.
C'était Marie-Cécile Naves, chercheure auprès de l'IRIS à Paris. Ainsi va le monde aujourd'hui. Lionel Gaïma à la mise en onde, Kevin Fowler à la console, Raissa Girondin à la présentation. On reste connecté sur Facebook et sur notre site internet voafrique.com pour plus d'actualités. Excellente suite de programmes. Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.